journal vous est présenté par Clarence Rodriguez.
Bonjour. Hommage populaire ce dimanche avant la journée de deuil national demain. Tous ceux qui l'ont aimé pourront venir. Les Français sont donc invités à se recueillir cet après-midi aux Invalides devant le cercueil du président Jacques Chirac, mort jeudi à 86 ans. Dans ce journal, nous irons à Beyrouth où une journée de deuil national sera organisée ce lundi en hommage à l'ancien président de la République, ami des Libanais et de la famille Hariri. Trois jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen et au lendemain des résultats d'analyse commentés par le préfet de Seine-Maritime, qui se voulait rassurant, l'inquiétude demeure pour l'environnement et les populations de la région. Des députés de gauche montent au créneau. Ils réclament l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire et une enquête administrative. Nous entendrons dans ce journal le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Élections en Autriche, ce sont quelques 6 400 000 Autrichiens qui sont appelés aux urnes ce dimanche dans la foulée du scandale de Limbizagate. Les Autrichiens plébiscitent toutefois le retour de Sébastien Kurz, une seconde chance pour le chancelier sortant. Trois jours après la mort de Jacques Chirac, la France rend hommage au cinquième président de la Ve République avant l'hommage solennel qui sera rendu demain, jour de deuil national. Une cérémonie populaire en présence de la famille est organisée cet après-midi aux Invalides à Paris et c'est à partir de 14h. Il devrait y avoir du monde, un moment important pour de nombreux Français, mais particulièrement pour ceux qui ont côtoyé Jacques Chirac. Rosalie Lafarge.
Il en garde un souvenir ému de Jacques Chirac. René, ce francilien, a été l'un de ses porte-parole locaux pour la présidentielle de 1995 et il n'a rien oublié.
Pour moi, c'était mon maître, un peu comme le général de Gaulle, comme Pompidou. Il était très ouvert avec tout le monde. Il n'aimait pas qu'on mette les malades à l'écart.
Ni personne d'autre d'ailleurs. Yvan se souvient d'avoir rencontré Jacques Chirac il y a quelques années.
Voilà, il s'était installé à côté de moi, il m'avait regardé droit dans les yeux, on avait senti qu'il était attentif aux autres, qu'il était humble. Ça m'avait touché en fait, cette rencontre m'avait touché. Lui, on pouvait dire, c'est le père de la nation. Il dégageait cette humanité qui faisait qu'on pouvait lui accorder ça, quoi, cette image du père de la nation.
Un père en politique aussi pour Jeanne. Elle a fait deux campagnes avec l'ancien président bénévolement. Elle a aussi travaillé plusieurs années à la mairie de Paris et elle regrette un peu qu'on ne voit pas plus grand pour rendre hommage à Jacques Chirac.
C'est pas beaucoup, deux hommages à l'église Saint-Sulpice et aux Invalides. C'est le moins qu'on puisse faire pour un homme qui a consacré sa vie, son énergie, j'allais dire, pour la France. C'est un homme pour qui j'ai une énorme tendresse. Je pense qu'il a beaucoup agi, à la fois pour les Français, mais aussi international. Il a été remarquable. Je pense que c'est une figure.
Une figure pour qui la France a décrété une journée de deuil national. Ce sera demain. Une minute de silence sera observée à 15h dans les administrations et les écoles.
Et au Liban, un jour de deuil national sera également observé lundi en hommage à Jacques Chirac. Quant au premier ministre libanais, Saad Hariri, sera demain à Paris pour participer à la cérémonie d'adieu. Son père, Rafik Hariri, assassiné en 2005, était un ami personnel très proche de l'ancien président de la République. D'autres personnalités libanaises, principalement issues de la coalition pro-occidentale, ont rendu hommage aux défunts. Pour une partie des Libanais, c'est un ami de leur pays qui est mort. Reportage à Beyrouth de Laure Stéphan avec la collaboration de Shérine Yazbek.
Pour une partie des Libanais, le nom de Jacques Chirac était associé à la souveraineté du Liban. Aux yeux de Cyril Jabre, c'est sa position après l'assassinat en 2005 de Rafik Hariri, le père de l'actuel Premier ministre libanais, qui reste la plus emblématique.
Vis-à-vis de la présence syrienne, sa pression, j'imagine que sa pression internationale a beaucoup joué sur le fait que les Syriens ont quitté le Liban avec le mouvement populaire qu'il y a eu au Liban. Ce qu'il a fait a été, je crois, le moteur vis-à-vis de la communauté européenne de vraiment pousser les Syriens à quitter.
L'assassinat de Rafik Hariri fut suivi par la fin de l'occupation syrienne du Liban, puis par la décision 2 ans plus tard de créer un tribunal international qu'avait ardemment défendu Jacques Chirac, un tribunal qui continue de diviser les Libanais. À Beyrouth, impossible encore d'oublier le nom de l'ancien président à la guerre en Irak en 2003. Ce fut l'une de ses positions les plus consensuelles ici, Philippe Tabet.
Son choix de ne pas intervenir dans la guerre de l'Irak était important et juste. Ce n'était pas le choix des Américains. L'histoire a voulu autrement, mais son choix était juste. Parce qu'on a vu après que c'était fabriqué, l'histoire des armes, etc. C'était complètement fabriqué pour envahir l'Irak.
Une invasion dont le Proche-Orient continue de sentir les secousses aujourd'hui.
Trois jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, l'inquiétude demeure pour l'environnement et les populations de la région. Des députés de gauche réclament l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire et une enquête administrative. Le député PS Olivier Faure l'a appelé de ses voeux hier. Le groupe La France Insoumise également. Le député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, estime qu'il faut faire la lumière sur les dangers liés à cet incendie.
On demande une commission d'enquête parlementaire, une commission aussi administrative, une enquête administrative, pour vérifier que, j'allais dire, les choses ont été faites correctement à partir de l'incendie. On se souvient d'un préfet qui expliquait que ce qui n'avait pas de toxicité aiguë, alors même que nous, on a aujourd'hui une ministre qui parle de pollution. D'un côté, on dit qu'il n'y a rien à craindre, et de l'autre côté, on nous dit que les fruits, les légumes seront impropres à la consommation. La deuxième chose, c'est que vous savez que cet établissement a eu trois incidents graves en moins de 10 ans. Et ce que nous voulons savoir, c'est si tout a été fait correctement suite à ces incidents dans, je rappelle, une usine classée haut risque dans une zone de 400 000 habitants. Et enfin, une troisième raison, il faut savoir qu'à cause des restrictions budgétaires, en 15 ans, il y a moitié moins de contrôle de sites, des postes qui sont supprimés chaque année d'inspecteurs. Comment voulez-vous faire plus avec moins? Parce qu'en plus de ça, ce sont les mêmes directions qui s'occupent des risques naturels. Je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme.
Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Le projet de loi de finances 2020 a été présenté en Conseil des ministres et à la Commission des finances à l'Assemblée nationale en cette fin de semaine. Ce projet entérine la baisse de l'impôt sur le revenu pour des classes moyennes et la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation. Il fera également la part belle aux armées et à l'intérieur. En revanche, les grands perdants, Bercy, l'éducation et la transition écologique, mais aussi le logement, comme nous l'explique Anne-Laure Jumet.
Le logement et ses quelques 40 milliards d'euros de dépenses, c'est un secteur qui traditionnellement est regardé avec attention par Bercy, toujours à la recherche d'économies, et ce budget ne déroge pas à la règle. D'abord, les aides au logement, elles sont quasiment gelées, progression de seulement 0,3%. Et puis la réforme repoussée du mode de calcul des APL va entrer en vigueur l'an prochain. Il y aura des perdants puisque l'objectif est de verser les aides en fonction des revenus du moment et non plus de ceux d'il y a 2 ans. Par ailleurs, pour l'acquisition d'un logement, le prêt à taux zéro voit son périmètre rétréci. À compter du 1er janvier prochain, il ne sera ainsi plus accessible pour l'achat d'un logement neuf dans les zones où l'offre d'habitat est jugée suffisante. Autre coup de rabot sur le budget d'Action Logement, l'ex 1% logement, 500 millions d'euros d'économies. Pour les travaux de rénovation énergétique, enfin, le périmètre se rétrécit puisque les 20% de ménages les plus aisés ne bénéficieront plus d'aide à l'occasion de la transformation du crédit d'impôt en prime forfaitaire. Colère des professionnels du bâtiment qui dénoncent un budget qui, pour la 3e année consécutive, menace selon eux l'un des secteurs qui tire la croissance en France.
On vote en Autriche. Ce sont quelques 6 400 000 Autrichiens appelés aux urnes ce dimanche dans la foulée du scandale de l'Ibiza Gate qui avait éclaboussé Sébastien Kurz. Les Autrichiens plébiscitent toutefois le retour du jeune chancelier sortant. Une sorte de seconde chance à Vienne, Louise Baudet.
Dans ce bureau de vote du centre-ville de Vienne, Sébastien Kurz fait un tabac.
D'abord, il faut qu'il gagne, d'accord ? Après, on verra.
C'est lui pour qui vous avez voté, n'est-ce pas ?
Oui, exactement.
Ensuite, avec qui Sébastien Kurz doit-il s'allier ?
Définitivement avec le FPÖ. Chaque parti a ses scandales et je pense qu'il faut faire la lumière sur les reproches qui lui sont faits. Mais du point de vue des programmes, ce sont ces deux partis qui s'accordent le mieux.
Une coalition droite-extrême droite saison 2, scénario possible, mais il n'est pas le seul. Les Verts ont le vent en poupe et pourraient créer la surprise ce soir. Alors en dépit de profondes divergences programmatiques, pourquoi ne pas tenter cette alliance inédite ?
C'est justement parce qu'ils sont différents qu'ils doivent s'allier pour représenter la diversité de la société.
Johan, lui, a choisi le bulletin social-démocrate.
Il faut absolument empêcher cette poussée catastrophique vers la droite. Moi, je suis d'accord avec n'importe quelle coalition, mais sans Kurz ni l'extrême droite. Ce sera dur à obtenir, j'en conviens, mais l'espoir meurt en dernier.
Impossible en effet d'imaginer une coalition sans les conservateurs, crédités d'une très large avance, 33 à 35% des suffrages annoncés.
Au Yémen, les rebelles houthis ont annoncé la capture de milliers de militaires saoudiens, dont des officiers, et procédé à la saisie de centaines de blindés lors d'une attaque d'envergure menée à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, près de Najran, située précisément au sud-ouest du royaume. Rappelons que cette opération intervient au lendemain de l'annonce par les autorités saoudiennes qui ont accepté un cessez-le-feu partiel dans ce conflit meurtrier qui dure, rappelons-le, depuis 5 ans. Avant de refermer les pages de ce journal, place à la face cachée du globe et aux actualités de la semaine que Nabila Amel a retenu pour nous. Bonjour Nabila.
Bonjour Clarence. La conclusion mercredi du premier volet de l'accord commercial entre Washington et Tokyo inquiète les éleveurs japonais. Ce chapitre prévoit notamment que le pays supprime ou réduise ses tarifs douaniers sur 7,2 milliards de dollars de produits agricoles américains, dont le bœuf et le porc. Un spécialiste sur place estime que les négociateurs japonais ont fait des concessions sur un secteur de l'agriculture déjà fragile dans l'espoir d'éviter, je cite, des mesures punitives sur l'automobile lorsque ce volet sera abordé. Des milliers de personnes non originaires de Wamena en Papouasie indonésienne ont fui la ville vendredi à bord d'avions militaires. Elles se disent menacées après les incendies de leur maison ou de leur commerce. Depuis que des étudiants papous d'un campus de Java ont révélé avoir été victimes d'attaques racistes, c'était le mois dernier, plusieurs villes de Papouasie sont en proie à des émeutes sur fond de revendications d'indépendance de ce territoire riche en minerais. Robert Mugabe a finalement été enterré hier dans son village natal de Kutama, dans le Nord, au cours d'une cérémonie très restreinte à laquelle ont participé sa seule famille et une poignée de fidèles. Ce transfert met fin à un bras de fer entre sa famille et l'actuel président Emmerson Mnangagwa. Les autorités tenaient à ce qu'il repose au Panthéon national des héros de la lutte de libération à Harare. Or, sa veuve s'y refusait, car celui qui est devenu un autocrate en 37 ans de règne n'a jamais digéré sa mise à l'écart par l'armée il y a 2 ans. Le nouveau conseil souverain qui dirige le Soudan vient d'ordonner la fermeture des frontières avec la Libye et la Centrafrique, officiellement pour cause de menaces sur la sécurité et l'économie du pays. Une mesure qui laisse sceptique le chercheur Marc Lavergne, spécialiste du Soudan.
C'est une décision qui a été prise au Darfour. C'est vrai que la frontière avec la Centrafrique, elle est l'objet de trafic à la fois avec des braconniers, des contrebandiers, mais aussi des milices qui viennent soutenir les forces de la CELAC dans la province orientale de la Centrafrique, dans une situation de déstabilisation permanente, très préoccupante. Ni les forces européennes ou françaises qui sont sur place n'arrivent à stabiliser la situation. Donc ça peut être une manière pour le Soudan de montrer aux Européens que le nouveau pouvoir de Khartoum est un pouvoir de stabilisation régionale et non pas ce qu'il était auparavant de déstabilisation. Alors quant à la Libye, on connaît la situation avec le général Haftar qui contrôle la frontière du côté libyen, mais aussi des forces Toubou qui sont dans le sud de la Libye. Alors il y a ces migrants qui vont vers l'Europe qui effectivement empruntent ce passage étroit, ce corridor désertique qu'il y a entre le Soudan et la Libye. Et là, c'est une région qui est contrôlée par les Rapid Support Forces, les RSF, du numéro 2 du régime de M. Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, qui tire sa fortune en grande partie du racket de ces migrants. Donc c'est à la fois une annonce à destination de l'Europe pour dire on va faire ce qu'on peut, mais pratiquement le contrôle de ces frontières est extrêmement difficile à partir de forces régulières qui n'ont pas les moyens de se déployer sur ces frontières. Alors je crois que c'est un effet d'annonce, de bonne volonté. Il est possible qu'il y ait aussi un enjeu interne. On peut penser que le Conseil souverain, qui est composé à la fois de militaires et de civils, essaye de juguler les forces de l'homme fort du régime, financé par l'Arabie saoudite pour faire la guerre au Yémen, mais qui en même temps rackette les migrants à la frontière de la Libye.
L'Arabie saoudite a commencé vendredi à émettre des visas touristiques. Ils seront accordés aux ressortissants de 49 pays, dont les États-Unis, l'Australie et plusieurs pays européens. Les autorités de Riyad ont annoncé leur intention d'assouplir le code vestimentaire pour les femmes étrangères. Toutefois, un communiqué du ministère de l'Intérieur fait part d'amendes prévues à l'encontre des vacanciers qui violeraient la décence publique. Le développement du tourisme fait partie du plan de réforme Vision 2030 du prince héritier Mohamed Ben Salman dans le but de diversifier les ressources du pays majoritairement dépendante du pétrole. À dimanche prochain.
À la semaine prochaine, Nabila. Enfin, pour terminer, un mot du temps. Un après-midi marqué par des rafales de vent soufflant jusqu'à 100 km/h sur le littoral de la Manche, avec un risque de vagues submersion le long des côtes du Pas-de-Calais. Ce département est actuellement placé en vigilance orange, de la pluie du centre-Val de Loire jusqu'au nord, du soleil au sud. Les températures moyennes sont comprises entre 16 et 24 degrés, avec 16 à Saint-Malo, 18 à Paris, 20 à Lyon et Bordeaux, et jusqu'à 24 degrés à Nice, et d'ailleurs du côté de la Méditerranée, où les températures sont encore estivales. Alors profitez-en si vous êtes dans cette région. Voilà, c'est la fin de ce journal, préparé avec François-Charles Domergue. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction. Bel après-midi à tous.